Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Art Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Les chamans de la préhistoire de Jean-Claude et David Lewis Williams » est un essai d'archéologie et d'anthropologie consacré à l'interprétation des grottes ornées paléolithiques. Son propos central est de proposer l'hypothèse chamanique comme grille de lecture des peintures rupestres. Sans en faire une explication exclusive, le livre examine comment les signes, les figures animales, les empreintes de mains et l'organisation des espaces souterrains peuvent être compris à partir des états de transe et des pratiques rituelles. À travers cette démarche, les auteurs cherchent moins à imposer une vérité définitive qu'à ouvrir un débat sur le sens symbolique et spirituel de l'art préhistorique. L'ouvrage se situe donc à la croisée de la recherche scientifique, de l'histoire des religions et de l'étude de l'art pariétal, avec une volonté nette de confronter les interprétations traditionnelles aux données anthropologiques. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, l'hypothèse chamanique comme clé de lecture de l'art pariétal. Le cœur du livre consiste à relier les peintures des grottes paléolithiques aux pratiques chamaniques. Les auteurs partent de l'idée que les images ne sont pas seulement décoratives ni purement narratives, mais qu'elles renvoient à des expériences de contact avec l'autre monde. Cette hypothèse s'appuie sur des comparaisons anthropologiques avec des sociétés où le chaman joue un rôle d'intermédiaire entre les humains et les esprits. L'intérêt de cette démarche est de déplacer la question du sens de l'art rupestre. Il ne s'agit plus seulement de décrire des figures, mais de comprendre pourquoi elles ont été produites dans des lieux souterrains précis et dans des contextes rituels particuliers. Le livre ne prétend pas que tout l'art des cavernes relève du chamanisme, mais il propose que cette dimension soit sérieusement envisagée. Cela explique son importance scientifique, il oblige à penser l'art préhistorique comme un fait social et religieux, pas seulement comme une manifestation esthétique ou technique. Deuxièmement, trans, vision et signes anthoptiques dans les grottes. Un apport majeur de l'ouvrage est sa description des états de conscience modifiés et des formes visuelles qui leur sont associées. Les auteurs distinguent notamment des phases de trans où apparaissent d'abord des formes géométriques simples, telles que points, lignes, zigzags ou grilles, souvent désignées comme signes anthoptiques. Dans une phase plus profonde, ces motifs peuvent se transformer en figures plus reconnaissables, parfois animales ou hybrides. Cette lecture donne un cadre explicatif à des signes longtemps jugés énigmatiques dans l'art préhistorique. Elle permet aussi de comprendre pourquoi certaines images semblent répétitives ou standardisées à travers des sites différents. Elles pourraient refléter des structures perceptives communes liées à la transe plutôt que des conventions purement locales. Le livre s'intéresse donc à la relation entre expérience intérieure et production graphique. Son originalité tient à ce qu'il relie des phénomènes neuropsychologiques, des pratiques rituelles et des formes artistiques, ce qui élargit nettement l'analyse des grottes ornées au-delà de la simple iconographie. Troisièmement, l'organisation des grottes comme espace rituel complexe. Le livre insiste sur le fait que chaque grotte paléolithique est unique et qu'il faut comprendre son organisation concrète. Les auteurs soulignent l'interaction de plusieurs facteurs, le lieu lui-même, les groupes humains qui l'utilisent, les rites qui y sont accomplis, et les formes artistiques qui y prennent place. Cette approche est importante car elle évite de réduire les grottes à un schéma uniforme. Elle propose au contraire de lire l'espace souterrain, comme une architecture d'usage, où certaines zones ont pu être réservées à des actions particulières ou à des séquences rituelles. L'idée est que l'on ne pénètre pas dans la grotte comme dans un simple abri, mais comme dans un espace organisé symboliquement. Cette lecture aide à comprendre pourquoi l'art n'est pas réparti au hasard, et pourquoi certaines cavités révèlent une logique d'ensemble. En ce sens, l'ouvrage renouvelle l'étude du site archéologique en liant topographie, pratiques collectives et expériences religieuses. Il transforme la grotte en document total, où l'emplacement des œuvres compte autant que les œuvres elles-mêmes. Quatrièmement, les indices matériels invoqués pour soutenir l'interprétation chamanique. Pour défendre leur hypothèse, les auteurs s'appuient sur plusieurs éléments matériels précis. Le livre évoque notamment les signes géométriques, les figures mêlant traits humains et animaux, les mains négatives au pochoir et certains usages de pigments ou de mélanges de substances dans les grottes. Ces observations sont mobilisées comme des indices, permettant de rapprocher l'art pariétal d'une logique rituelle et visionnaire. L'enjeu n'est pas de transformer chaque détail en preuve absolue, mais de montrer que plusieurs phénomènes convergent vers une interprétation symbolique et cohérente. Le livre accorde ainsi une grande place à l'argumentation par faisceau d'indices. Cette méthode est intéressante car elle combine analyse visuelle, comparaison ethnographique et réflexion sur les pratiques de transe. Elle est aussi l'une des raisons pour lesquelles l'ouvrage a suscité des débats. Certains lecteurs y voient une construction stimulante, d'autres une hypothèse trop ambitieuse. Quoi qu'il en soit, il a fortement contribué à faire entrer les détails matériels de l'art rupestre dans une discussion plus large sur la spiritualité et les techniques de l'expérience religieuse. En dernier lieu, un ouvrage de recherche polémique qui a relancé le débat sur la préhistoire, Les chamans de la préhistoire, est aussi connu pour la controverse qu'il a provoquée. Dès sa parution, le livre a rencontré un intérêt important, mais également des critiques sur la portée de ses conclusions. Cette réception fait partie de son identité intellectuelle. Les auteurs ont d'ailleurs publié une version enrichie avec réponse aux polémiques, ce qui montre qu'ils considèrent l'ouvrage comme une hypothèse de travail à discuter, non comme un dogme. Cette attitude le distingue de livres qui se contentent d'affirmer une explication unique de l'art préhistorique. Ici, la valeur du texte réside autant dans la formulation d'une piste de recherche que dans sa capacité à susciter des objections argumentées. Le livre a donc joué un rôle durable dans les études sur l'art rupestre, en obligeant les chercheurs à préciser leur position sur le sens des images. La place du rituel et les limites de la comparaison ethnographique. Il reste important pour quiconque veut comprendre comment une hypothèse scientifique peut transformer un champ de recherche, même lorsqu'elle n'obtient pas un consensus total. En conclusion, ce livre s'adresse d'abord aux lecteurs intéressés par l'archéologie, l'anthropologie religieuse, l'histoire des représentations et l'art préhistorique. Il convient aussi à ceux qui veulent comprendre comment une hypothèse scientifique se construit à partir d'indices fragmentaires et de comparaisons prudentes. Son principal bénéfice est intellectuel, il apprend à regarder les grottes ornées autrement, en reliant formes visuelles, espaces souterrains, rituels et expériences d'aide trans. Même si l'on n'adhère pas entièrement à la thèse chamanique, l'ouvrage force à poser de meilleures questions sur le sens des images paléolithiques. Ce qui le distingue de nombreux livres sur la préhistoire, c'est qu'il ne réduit pas l'art rupestre à une fonction utilitaire ou décorative. Il propose une lecture à la fois rigoureuse et ouverte, capable de dialoguer avec l'ethnologie et l'histoire des religions. La présence, dans certaines éditions, de réponses aux critiques renforce encore son intérêt, car elle montre un débat scientifique vivant plutôt que des démonstrations figées. C'est un livre de référence pour comprendre une controverse majeure dans l'étude de l'art des cavernes. Si vous souhaitez soutenir Jean-Claude, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt !